Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, promis.
Bonjour.
Pas d'ASMR, on sait qu'il y en a que ça dérange, donc
namasté.
Namasté à vous. Ce sera le seul moment, l'instant voire rocailleuse d'Olivier et Mehdi, vos serviteurs, pour un nouveau numéro de Home, votre
Parce
podcast.
Parce qu'après, on va parler comme ça.
On va retrouver Dieu. Voilà.
Ça sent la fin de Dieu.
C'est donc lui, la voix du podcast en...
J'ai perdu, je ne sais plus où je suis,
je ne connais pas ma...
Qui êtes-vous ?
Je ne connais pas ma société.
Qui suis-je ?
Mais que fait notre podcast si ce n'est...
La pleine conscience.
Mais bien sûr, voyons. Comme dirait notre ami Jean Laval, ou je ne sais plus son prénom, peu importe.
C'est
Jean Laval. On n'arrivera jamais à le retenir, c'est signe à quel point il est insignifiant. Bref, pas d'acharnement thérapeutique, c'est pas le genre de la maison, sauf quand c'est drôle, et on va commencer sans plus tarder. On va finir par faire un jet de dés ou trouver un Shifumi, un truc pour tirer au sort à chaque fois, mais je pense qu'il y a une actualité totalement incontournable qui va même être un marqueur temporel pour toutes celles
et ceux... Oui, parce que les gens seront au courant depuis bien longtemps.
Voilà, mais en tout cas, ils se diront, bizarre, on n'en a pas parlé, machin. L'émission spoiler est enregistrée en léger décalé en direct.
Oui, parce que c'est on vous en parle le jour où ça s'est produit.
C'est ça. Donc là, on va même pas spoiler, on laisse du mystère, vous aurez un ordre d'idée à plus 24, 48, 72 heures. Akira Toriyama, excusez-moi.
Nous a quittés.
Voilà. Donc, je sais que toi, tu me disais d'entrée de jeu que...
Ah ouais, ça m'a vraiment fait quelque chose. Après, en même temps, tu sais, mon amour pour Dr. Slump et Dragon Ball.
Je te suis.
Donc, ça m'a fait bizarre. Je me dis, ah ouais, d'autant que, je sais pas, j'allais dire il a bien vécu, en fait j'en sais rien, c'est pas parce qu'il était riche à millions qu'il était pourtant heureux, mais il était pas si vieux que ça, 68 ans, c'est pas non plus, voilà, mais en attendant, ouais, c'est quand même quelqu'un à qui je dois quelque chose, qui même s'il l'a pas fait pour moi, n'empêche que son œuvre a beaucoup compté dans ma vie, donc forcément...
Dans la mienne aussi, ouais, très clairement, pour l'instant, je réagirai ultérieurement, même si je pense que, quand je dis ça m'a moins secoué, c'est peut-être du fait qu'il y a une
parce
proximité.
Parce que t'as pas de cœur.
Déjà, mais ça, je pense que les gens l'avaient déduit depuis la première émission. Mais je feins la pleine conscience, d'ailleurs.
C'est ça.
Fantomas. Très belle imitation. Mais grosso modo, je me suis aussi enquillé un autre décès dans la gueule de quelqu'un qui te sera moins familier, mais dont tu connaîtras l'œuvre. C'est Yoshitaka Murayama, encore un Nippon, décidément, qui est le créateur historique de la série des Suikoden.
Ah oui, donc
voilà.
Ça a dû piquer.
Et donc,
quand est-ce qu'il est décédé ?
Il y a une semaine et demie,
d'accord.
Même pas, un truc comme ça. Donc c'est très très récent, donc là voilà, ça s'enchaîne. Et je t'avoue que moi, j'avais déjà parlé il y a quelques numéros, mais je pense que ça doit être comparable à ce que tu ressens sur Akira Toriyama, mais la seule personnalité publique où vraiment j'ai été plombé à l'annonce du décès, avant Murayama, c'était Satoshi Kon. Donc Paranoia Agent, Paprika, Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfathers, et voilà. Donc Toriyama, évidemment, c'est... En fait, Toriyama, je pense, pour expliquer ma réaction, et après je te laisserai au roue libre, parce que j'aurai probablement moins à dire que toi sur le concernant, c'est tellement intériorisé, en fait, ça fait tellement partie de moi, parce que c'est une œuvre, je pense... inaugural de début pour beaucoup de gens, en particulier des trentenaires quadras, mais que je sais pas, est-ce que c'est je ne réalise pas, est-ce que c'est, ouais, je sais pas, voilà, je fais pas plus long inutilement.
Non, après, est-ce qu'il n'y a pas aussi la dimension du fait que ces derniers temps il faisait plus rien de concluant, parce que Dragon Ball Super porte mal son nom,
ouais.
Et je sais pas, non, parce que tu vois, Satoshi Kon, il y avait quand même du potentiel chez la personne, alors que Akira Toriyama, sur le plan artistique, parce que bon, le côté humain, soyons clairs, on le connaissait pas, on n'a jamais rien partagé avec lui, ça se trouve c'était quelqu'un de très agréable, ou comme ça pouvait être quelqu'un de très désagréable, on n'en sait rien, mais d'un point de vue, alors il laisse une œuvre majeur, mais ça faisait des années que ce qu'il faisait, ou ce qu'il faisait croire qu'il faisait, parce que bon, Dragon Ball Super, je pense qu'il signait en bas de la feuille, mais je suis pas convaincu, je peux me tromper, que je sais pas, alors que des fois, ça peut peut-être être froid comme analyse, mais je me dis, quelqu'un qui avait encore quelque chose sous le pied, tu te dis, mince, il est mort. Bah, comme j'ai oublié le nom de l'auteur de Berserk.
Murat, ouais.
Il laisse une œuvre en suspens, tu te dis, il y a aussi ce côté, mince, il ne nous aura pas donné, il n'aura pas pu, il n'aura pas été en possibilité de nous donner la suite de quelque chose. Donc je ne sais pas. Après, je suis comme toi, hein, c'est à chaud. Mais c'est vrai que quand ça m'a fait un pincement au cœur, je me suis dit, je pense qu'en fait, ça me fait exactement la même chose que ça pourrait me faire si j'apprenais la mort de quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. Mais qui a compté dans ma vie et qui m'a apporté quelque chose et te dire... Ah,
je lui dois.
Ouais, exactement.
Je lui dois beaucoup de choses. Pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que c'était inévitable, hein, évidemment, qu'on vous en touche un mot. On ne va pas s'étendre, si ce n'est... moi, j'aime bien dans ces cas-là, comme je pense en termes de mentalité, pas mal de gens. Alors, ce qui m'embête un tout petit peu, c'est que j'ai pu ce qui lui a fait passer malheureusement l'arme à gauche, mais je sais que ça a été assez fulgurant, je crois.
C'est un truc, cerveau, j'ai oublié le nom technique de...
Rupture d'anévrisme ?
Non. Okay.
On retrouvera. Mais voilà, c'est peut-être plus ça qui me touche et qui me peine le plus, au-delà de ce que t'as expliqué tout à l'heure, mais qui est, on va dire, purement égoïste, tu vois, quand on se dit, effectivement, il laisse pas quelque chose en suspens.
Bon. Hématome sous-dural.
Sous-dural, voilà, c'est ça, effectivement. Mais voilà, moi, je me souviens, parce que je relisais, il y a très peu de temps, pour une énième fois, Dr. Slump. Je vous recommande, si vous êtes passé à côté, parce que, très clairement, c'est vrai que Toriyama... très grosse œuvre majeure Dragon Ball, sur laquelle, ironiquement, il a été, on le rappelle pour celles et ceux qui suivaient pas forcément sa carrière ou question générationnelle, bah, il a été longtemps poussé à continuer.
Alors qu'il voulait plus continuer.
Alors qu'il ne voulait plus, quasi publiquement à un moment donné. Et ouais, c'est pour ça que Dr. Slump est intéressant dans toutes les bases qu'il contient en son sein. Et sinon, si vous arrivez à retrouver ça à un prix pas trop chéro, vous avez les histoires courtes d'Akira Toriyama, c'était publié chez Glénat, puisqu'ils ont raflé la timbale avec quasiment tout ce qu'il a fait, et dans lesquelles vous avez notamment beaucoup aussi de bases. Bah, il y a le fameux Dragon Boy, qui est l'origine de le pré-shot de Dragon Ball, et surtout un autre manga assez absurde entre Dragon Ball et entre Dr. Slump, qui était Gogo Hackman, qui à l'époque me faisait baver sur les adaptations Super Nintendo, qui reproduisait son trait vraiment de manière sublime, parce qu'évidemment on n'en avait jamais assez, on avait les jeux à l'époque, mais on en voulait toujours plus, donc voilà, si ça vous intéresse, je pense.
Toriyama aussi, c'était le caractère designer des... c'est la machine à café.
C'est la machine à café qui magnifique. Se met, voilà, on vous spoil.
Chez Dragon Quest.
Elle est incroyablement bruyante, j'avais jamais fait gaffe à ce point-là. Non, elle l'est, mais je pensais pas que ça allait s'entendre jusque dans le micro, mais voilà.
Mais quand on veut du bon café, faut aimer le bruit.
Oui.
Dragon Quest, c'est quand même pareil, hein, dans le milieu, enfin dans le jeu vidéo, c'est quand même quelque chose de majeur.
Complètement.
Ça fait la mort fait partie de la vie et c'est dur pour les vivants.
C'est ça, mais voilà, renseignez-vous. Il y a eu plein de petites histoires courtes. Micro trigger warning quand même, si vous creusez, sachez qu'il y a eu une histoire courte, je crois, en même pas 2-3 pages, qui est pas super... Enfin, j'allais dire qui est pas super terrible, qui est assez affreuse, étonnante, non, parce que bon, on va pas le traîner dans la boue au moment de son décès, mais Toriyama, voilà, sur le rapport plus que border pédophilique et sexiste, bon, voilà, tortue géniale, on n'est pas dans un truc procès d'intention ce soir là-dessus, évidemment, chacun voit midi à sa porte par rapport à ça, mais c'est une réalité, et donc il y a une de ces œuvres, faites attention quand même si on vous donne envie de creuser, qui raconte l'histoire d'une espèce de jeune justicière qui ressemble beaucoup à la femme vampire dans Dr. Slump, si tu te souviens d'elle, voilà, et qui se fait en fait intercepté par un voleur et violé. Voilà. Donc là, c'est même pas, tu vois, les fameux paf paf tripotage de nichons ou petite culotte de Dragon Ball. Hein, c'est vraiment littéralement ça. Donc voilà, fais-y gaffe, comme dirait l'autre, mais sinon. Évidemment, Dragon Ball et Dr. Slump dans la bêtise et la rigoladerie, voilà. Donc, je sais pas si tu as quelque chose en tête pour continuer sur Toriyama ou passer sur autre chose.
Non, parce que j'avais pas prévu de parler de ça, parce que j'avais pas prévu qu'il allait mourir aujourd'hui.
Oui.
Et comme j'ai des sujets, si on veut pas faire 2h50 d'émission. Je vais pas, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire. Yes. Si on commence à parler de Toriyama...
Ah oui, on pourrait faire clairement une émission dédiée.
C'est clair.
Donc, est-ce que tu voulais enchaîner ou est-ce que
oui,
tu
je vais continuer avec un sujet hyper enthousiasmant et joyeux.
Ça se voit,
c'est mieux. Est-ce que tu as vu le super documentaire « État limite » d'Arte ?
Du tout. J'en ai entendu parler, mais...
Je te le recommande en te prévenant que c'est hyper dur à regarder. Okay. Je préfère le dire tout de suite... Parce que ça m'a fait un choc.
On rappelle quand même, si vous nous découvrez avec cette émission, nous sommes tous les deux psychologues, donc voilà, quand même, ça vous donne un ordre d'idée de...
Avant de faire ce spoil, mais non, parce que c'est un documentaire, pour moi, on spoil pas un documentaire, c'est un documentaire, mais je pense qu'il vaut mieux être prévenu que ça arrive, parce que quand ça arrive, quand t'es pas prévenu, tu te le prends en pleine gueule.
Okay.
En fait, tu suis donc, alors j'ai oublié son nom de famille, mais le docteur, je sais plus, Jamal, de son prénom, 36 ans de mémoire,
ouais.
Qui travaille dans un hôpital à Clichy, qui est le seul psychiatre de l'hôpital.
Ça commence bien, déjà, comme voilà. Terrain dépeint.
Un mec incroyable. Franchement, s'il y avait plus de psychiatres comme lui, le monde se porterait mieux. Mais vraiment, il est vraiment hyper touchant, quelqu'un de très humain. Soyez prévenus pour ceux qui ne sont pas de ce milieu-là, il peut avoir un discours qui peut peut paraître brutal, c'est-à-dire il va parler avec beaucoup de tendresse des personnes qui ont des problèmes psychotiques, les fous, mais pas en disant ouais, les fous, non, mais au contraire en utilisant
en nommant les choses,
un jargon psychiatrique, en disant oui, que la place du fou dans la cité, dans un petit village. Eh ben, le fou avait plus sa place qu'aujourd'hui, que les grandes villes sont des facteurs aggravants. Voilà, il utilise des termes comme ça qui peuvent choquer quelqu'un qui comprend pas qu'en fait il le dit pas avec du mépris.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que
quand
tu connais pas le jargon psychiatrique, tu peux te dire mais attends, il parle de qui ? Il y a des termes maintenant, on parle de troubles, on parle plus de. Mais
de bon, santé mentale, de.
Mais et en même temps, je veux dire. Quand tu l'observes, quand tu vois comment il va vers les patients, il est soucieux, il s'occupe d'eux, il les écoute, il a...
Est-ce qu'il est dans une neutralité bienveillante ?
Non, et pas du tout. Et c'est
Pardon,
ça,
c'est
en fait. Au contraire, c'est oui, parce que
la
notion
de
neutralité à laquelle on ne croise pas tous les deux, c'est-à-dire que pour nous, bah déjà, c'est un oxymore, mais en plus de ça, non. Pour moi, et je le dis, je sais que je suis en choc quand je dis ça, mes patients, je les aime. J'ai vraiment de l'amour pour eux, c'est-à-dire que je ne suis pas... Alors, mettons les choses
coucou Internet et les montages et les raccourcis.
C'est ça,
rapides.
C'est-à-dire que à partir du moment où je me dis je suis pas en capacité d'aimer cette personne, je suis pas en capacité de l'accompagner. C'est plus de l'ordre du respect, de la considération.
Du souci de l'autre,
c'est
comme
ça,
tu disais tout à l'heure.
Ce genre d'amour dont je parle. L'agapé, hein, en grec antique, c'est l'amour compassion qu'ont récupéré après les chrétiens avec la charité chrétienne en parlant d'agapé. Mais à l'origine, en grec antique, agapé, c'est la notion de respect, de compassion, de considération. Et justement, il a cette considération. C'est-à-dire que même s'il a en face de lui par moment des patients qui sont dans des états grave psychiquement parlant, des personnes qui peuvent être en ce qu'on appelle état mixte, c'est-à-dire beaucoup de pensées qui les envahissent et qui partent dans vite et avec lesquelles elles n'arrivent pas à composer, avec lesquelles elles fusionnent, quoi. Bref,
avec lesquelles il est difficile d'avoir du recul, etc. Enfin, on pourrait vous trouver plein d'images.
On sent des personnes vraiment qui confondent par moment la réalité avec leur
monde psychique, leur monde
psychique, voilà. Et il a toujours une posture d'égal à égal. Alors, c'est ce qu'il explique, il dit c'est un peu difficile, il dit j'ai un rôle à jouer, c'est-à-dire je suis médecin, psychiatre, on me demande mon avis pour prendre des décisions graves, comme à un moment donné renvoyer une femme dans son pays d'origine alors que elle est au plus mal psychiquement, qu'elle dit qu'elle fuit son pays parce que là-bas sa mère la maltraite psychiquement, et que en même temps elle s'est rapprochée d'une communauté religieuse, et comme il dit peut-être que cette communauté religieuse est sincèrement bienveillante, mais j'en ai pas non plus la certitude. Quelle décision, c'est des choix cornéliens, quoi.
Moins pire des deux
et en même temps quand il s'adresse à ces personnes, on sent que vraiment il a bien conscience qu'il a certains savoirs qu'ils n'ont pas, mais il a une posture vraiment d'égal à égal, quoi. Ouais. Donc je fais le spoil tout de suite. En fait, vers la fin du documentaire, on apprend qu'un patient qui est sorti, alors moi je dis trop tôt, un patient qui est sorti, bah finit par mettre fin à ses jours.
D'accord.
Donc il annonce ça à l'équipe, il est lui-même bouleversé. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui... Il y a un échange hyper touchant entre lui et la psychologue. Je crois que c'est la psychologue, mais je suis pas sûr. Soit j'ai pas bien fait attention à l'info, soit c'est pas dit clairement.
Ou
mais
une infirmière, peut-être. Non, c'est sûr que c'est une psychologue.
Mais c'est le seul psychiatre.
D'accord.
Donc,
je disais ça parce que très souvent, dans les hôpitaux psychiatriques, elles sont aux premières lignes des relais, justement, de ces infos-là. Voilà.
Donc il parle et tout, et donc cette femme dit qu'elle a beaucoup d'angoisse relative à la crainte que les gens se défenaissent, mettent fin à leur jour d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que il l'écoute attentivement. Ouais. Elle dit que c'est dur, et il se passe cet échange très touchant et en même temps très dur où il dit tu sais. Moi aussi, j'ai beaucoup d'angoisse, mais je l'intériorise parce que je sais qu'il faut que je tienne la barque. Et elle lui dit que oui, effectivement, elle a besoin de ça parce que sinon, ça serait encore pire pour elle. Petite anecdote, entre guillemets, il a 36 ans, il souffre du dos au point qu'il ne peut pas rester assis. Il ne peut pas rester debout longtemps. D'un point de vue psychosomatique, ça laisse entendre qu'il y a quelque chose qui refoule et qui se manifeste physiquement. Quoi. Et en même temps, s'il ne refoule pas, il fait comment pour tenir la barque ? Pareil, il y a un moment très touchant où il parle à un aide-soignant, pareil. Il parle à l'aide-soignant, c'est ses deux collègues qui sont en train de se parler. Tu sens vraiment un mec qui à la fois dirige les équipes et en même temps qui dit « Ouais, c'est ma fonction, mais en face de moi, j'ai un être humain au même titre que moi. Il est aide-soignant, ok, mais c'est... » Et donc, il se parle à cœur ouvert et l'aide-soignant lui dit qu'il n'en peut plus, qu'il a deux doigts du burn-out, qu'il n'en peut plus de voir des collègues infirmiers ou autres partir en burn-out, que ça lui fait mal au cœur de se dire que c'est des personnes les plus investies, et ça va de pair, en fait, qui partent en burn-out, que lui, il n'est pas venu ici pour aller vite. Il lui dit d'ailleurs, il fait, mais c'est pas normal que vous devriez être, je sais plus combien il lui dit, mais en tout cas, c'est pas normal que tu sois seul, toi, en qualité de psychiatre. C'est fou. Et donc, Jamal qui lui dit, mais t'as complètement raison, on n'a pas signé pour ça, on a signé pour prendre soin des gens, on a moins en moins la possibilité. Nous, c'est pas mesurable ce qu'on fait comme un chirurgien qui va opérer. Nous, on navigue dans d'autres eaux, et il dit, et le pire dans tout ça, c'est que plus j'y réfléchis et plus je me demande si on n'est pas complice de ce système de santé qui va mal.
Grande question. Grande question. Ça, par contre, c'est... Oh là là, tu veux...
Et donc,
parce que... Vas-y. Je garde
et donc, on a un être humain qui se dit, est-ce que je serais pas mieux, déjà pour moi, mais aussi pour mes patients, en tant que praticien libéral ? C'est-à-dire que ce mec-là, compétent comme il est, bon, déjà vu comme le monde psychiatrique, et je pense, pour lui, je pense que c'est même pas vraiment un débat, mais d'un point de vue pragmatique, il se ferait 3-4 fois son salaire.
Oui, bien sûr.
Par contre, il s'adresserait pas au même public.
Non. Après, ça peut s'aménager, on va dire.
Oui, ça dépend. Ouais.
C'est compliqué, mais c'est jouable.
Mais toujours est-il que... parce que le public qui vient à l'hôpital, c'est pas forcément celui qui ose aller, mais bref.
Bien sûr.
Mais de toute façon, pour lui, ça, je pense que c'est pas tant une question d'argent, c'est plus une question d'éthique, et de se dire, ouais, mais en fait, les gens qu'on a en Libye, on peut les suivre, vraiment, en fait. On peut être là. Donc c'est hyper touchant, je pourrais en parler, il y a beaucoup de choses à en dire.
Oui, ça...
C'est bouleversant aussi, hein. C'est flippant. En fait, c'est à la fois on se dit ouah chouette, il y a des mecs comme ça qui existent sur cette planète, et en même temps on se dit merde quoi, le système est en train de l'écraser, il en peut plus, notre système de santé va mal. Ça en est encore un témoignage. Où va-t-on?
J'ai pas grand chose à rajouter. Je vais quand même en mettre un petit peu de contexte. J'ai arrêté moi-même de bosser en institution il y a 2 ans, je crois, maintenant. Je me suis remis à travailler en libéral. Ça a été dur. J'en ai beaucoup parlé, d'ailleurs. J'en ai beaucoup parlé à l'époque. Et déjà, à l'époque, quelles que soient les structures, dès lors qu'on avait commencé à se connaître, hein, tu me disais, je sais pas comment tu fais. Enfin, tu le savais déjà pour toi. C'est pas que c'était pas représentable, mais tu avais déjà une certaine vision de ta pratique en libéral. Et oui, pardon, vas-y.
Non, fini.
Et non, simplement pour dire que c'est pas simplement un documentaire, entre guillemets, bien fait. On est vraiment au cœur de la réalité. Et la vraie question, c'est, on se répète beaucoup, mais combien de temps ça va durer? Et un dernier détail, un autre, je vous renvoie d'un documentaire à l'autre, j'en avais peut-être déjà parlé, mais sur ce que disait Olivier, sur le fait que les services de psychiatrie dans les secteurs très fréquentés, notamment dans les grandes villes, parce que tout à l'heure je riais nerveusement parce que Clichy c'est un point névralgique, hein. Clichy c'est à la frontière entre Paris et le 92, et c'est extrêmement fréquenté et avec des publics extrêmement précaire, avec tout ce que ça induit, hein. Ça va de junkies jusqu'à des gens qui souffrent d'extrême précarité, qui impactent leur état psychique, etc., etc. Et il y a un documentaire magnifique, si ça vous intéresse, qui s'appelle Un monde s'en fout, point d'interrogation, et qui pose la question de à quel point le système de santé, et le documentaire date d'il y a, je crois, 10-15 ans, hein, donc tu vois, pour te dire, repousse de plus en plus les fous, pour reprendre des termes du docteur Jamal, pour aller vite aux périphéries des grandes villes, donc dans les zones rurales et plus loin encore. Et donc, quid de leur subi, parce que tu disais tout à l'heure, au-delà de l'éthique du fait que lui, il se met pas en libéral parce qu'il continue de croire à ce qu'il fait, etc., ça se fait pas en un claquement de doigts, hein, cette réalité-là. C'est-à-dire que même s'il se disait, ok, on prend un truc scénario arc-en-ciel merveilleux, il se met en libéral, il adapte ses tarifs et tout à tout le monde, il y a un suivi. Il faut savoir qu'il y a des personnes pour qui le lieu, le cadre de l'accueil, il est essentiel. Et si vous enlevez ça, le fait que le cadre ne bouge pas, quoi. C'est pas la stabilité, le mot que je cherche, mais c'est pas grave. Mais le fait que le cadre, donc le lieu où vous accueillez, que ce soit en libéral ou en pratique, une fois que c'est mis en place, c'est tout aussi essentiel que la personne que vous recevez. Pour donner un ordre d'idée aux gens, et j'aurai terminé après, promis, parfois, si vous changez une installation, un tableau ou un truc dans votre cadre d'accueil, on va parler du libéral, ça peut être, il faut faire avec énormément de parcimonie. Hein, vous avez des publics pour qui la permanence, c'est ça le mot que je cherchais, la permanence du cadre, c'est très 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 problématique. Et c'est pas une blague en mode de bon névrosé, en mode oh là là vous avez changé ça, ou de petits trucs d'obsessionnalité. Là on parle d'effets de déréalisation chez certaines personnes. Voilà.
Ouais, ou tu prends par exemple des personnes qui ont des troubles du spectre autistique, pour qui le comme tu dis, la permanence, la notion de régularité, c'est hyper important. Il y a des publics où tu peux dire ah tiens, on a un aménagement, enfin je suis pas disponible sur ce créneau, ça vous va? Puis il y en a d'autres, c'est hyper compliqué pour eux, quoi.
Oui, tout à fait.
Non, mais je voulais rebondir en disant que quand moi je me suis reconverti professionnellement, à la base moi j'avais étudié l'économie, je voulais me faire un max de fric, non c'est même pas pour ça, c'est parce que ça me plaisait, et j'étais dans le management, et on m'a reproché d'être trop psy, lol, de trop me soucier du bien-être psychique de mes collaborateurs, non mais c'est pas des conneries.
Non, mais je sais bien.
C'est je vous jure. Et donc du coup, bah comme j'ai une tendance à la curiosité, je me suis intéressé à la psychologie et du coup je me soucie encore plus. Donc ça plaisait pas. Et donc à un moment donné, bon, c'est posé la question je vais la faire courte, mais j'en suis arrivé à me reconvertir, à dire bah, où est-ce que je passe et l'école que j'ai faite est une école privée. Alors certes, je l'ai fait aussi parce que c'est une école intégrative, donc qui proposait plusieurs approches, le
ouais,
but
plusieurs
de
la, courants psy.
Voilà,
on vous l'avait
déjà
dit.
Pour faire votre
écoutez,
popote encore. Voilà. Bref, mais il s'était posé la question de oui, mais si je fais une école privée comme celle-ci, je pourrais pas travailler en milieu hospitalier et tout ça. Et en fait, la réflexion, elle a été très rapide. Hein, la question,
jeune entrepreneur.
La question, elle a été vite répondue. Ouais. Je suis trop insoumis dans l'âme et je fais vraiment une différence entre l'âme.
Insoumis.
Voilà, insoumis.
Voilà.
Oui.
Comme Mélenchon.
Non. non, mais dans le sens où, justement, je fais la différence entre la soumission et la rébellion. Je ne suis pas un rebelle, mais quand un truc correspond pas à mon système de valeurs.
C'est mort.
Voilà. J'aurais pas pu en institut. J'aurais pas tenu.
Ah oui. C'est pour ça que ça a été très compliqué personnellement
donc,
pendant
voilà.
10 ans.
donc j'aurais pas tenu autant de temps que toi. Je sais pas comment t'as fait. Donc
comme Jamal en fait. Et
donc,
voilà.
Du coup, je me suis dit à quoi bon la question.
Même certains jours, je me disais Jamal.
c'est rigolo.
Fallait qu'elle sorte. Hein,
donc du coup, ouais, je me suis dit bon, ouais, c'est un faux problème. Okay,
oui.
Fais ton école. Là, c'est pas grave, tu travailles pas en hôpital. De toute façon, tu l'aurais pas fait, ou alors t'aurais pas tenu longtemps. Donc voilà, c'était pour l'anecdote.
C'est aussi pour le dire aux jeunes praticiens potentiels. Hein. S'il y a des gens qui se posent des questions, qui nous écoutent, réfléchissez.
Oui.
Au moment où on enregistre, il y a des vrais tournants sur les orientations, les formations dans le champ du soin. Réfléchissez bien.
Oui.
Et
oui.
Rencardez-vous au-delà de vos stages, etc. Parce que fallait déjà en vouloir il y a 10-15 ans. Alors en ce moment,
oui.
Bon chance, comme dirait l'autre. Bref, voilà. Donc, état limite, tarté.
Oui.
Ok, ah, okay à...
C'est d'utilité publique.
D'utilité publique en n'étant pas trop le moral dans les chaussettes.
Oui, mais il faut que ça bouge.
On est d'accord. On est d'accord. Que te dire ? J'ai vu Batman. Alors, pas Batman, je le fais sur l'air de Taz, à l'époque de Télé-Taz sur France 3. Non, j'ai vu le dernier Batman en date. Je sais pas si tu l'as vu, toi, de ton
non.
côté. Non.
Ah. Non.
Bon, moi, je vais rester un petit peu vague et je te le prêterai, comme ça on en reparlera plus tard. Donc, je fais juste une petite pastille. J'ai été très agréablement surpris.
D'accord.
Un petit peu trop de longueur à mon goût, mais c'est en réalité, je le fais de manière succincte, comme ça tu auras l'occasion, j'espère, de le regarder dans ton emploi du temps de ministre. Bon, c'est respectif, hein, je fais la blague, mais en vrai, voilà. Oui, pardon, je t'en prie.
On est donc au mois de mars, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Il y a Dragon's Dogma 2 qui sort.
Tu m'oublies. Ok. Tu vas bien te glisser ça hein, un petit soir. Non, tu sais quoi ? Quand t'es assez avancé dans Dragon's Dogma 2, tu te fais un double écran. Tu vois, tu continues de grinder et sur un autre écran, tu regardes le Batman. Voilà. Et j'ai toujours une solution. Demande. Et non, c'est blague à part. Je vais aller très vite. Je sais qu'il y a des gens qui vont m'en vouloir, mais pour l'instant, je préfère que tu l'aies vu avant et on en reparlera plus tard. Je trouve un très bon compromis. Même si je pense pas que c'était forcément la tension première, entre la vision de Burton et la vision de Nolan. Alors la vision de Schumacher, on oublie, hein, vous m'excuserez, même si j'aime bien ce côté un peu fantasmagorique, comédia dell'arte du Forever et du 4, Batman le... Non, c'est pas le défi. Comment il s'appelle le 4, d'ailleurs ? C'est Batman et Robin, je crois, tout simplement, le 4. Je sais plus. Celui avec Mr. Freeze et Batman qui a une carte de crédit.
Qu'est-ce qu'il est nul, ce film.
Il est drôle, mais il est nul.
Il est drôlement nul.
Voilà, c'est ça. C'est bien résumé. Et par contre, moi, il y avait un truc qui m'avait beaucoup intercepté, c'est que bah, déjà, je voulais un petit peu mettre un peu fin à cette trilogie Nolan. Alors autant le Dark Knight, comme beaucoup de monde, je lui trouve bien des qualités et il m'a complètement embarqué. Autant le 1 et le 3, le 1 est ok tiers, le 3, moi, il m'est complètement passé au-dessus. Hein, c'est le Rises avec Bane et la mort de Marion Cotillard. Et du coup, ce nouveau Batman, il est assez sympa dans le sens où tu vas te retrouver avec un Robert Pattinson, donc l'acteur, beaucoup de gens le repèrent grâce à ça s'ils sont pas très branchés dessiné, c'est l'acteur de Twilight initialement, et grosso merdo, c'est surtout un acteur qui a joué avec Cronenberg, qui a joué avec dans des films indépendants, enfin le mec est très très polyvalent. Et grosso modo, il tient très bien le rôle. Et il y a un truc qui m'a marqué, qui te dira rien sur le film, donc c'est bien, ça te laissera le temps de voir. C'est, je suis impressionné qu'il a accepté, même si le connaissant, et je l'apprécie de très longue date, cet acteur-là, qu'il ait accepté un rôle pareil où on ne voit pas sa tête pendant 70 à 80% du film.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il est masqué, mais vraiment presque dans une logique basique acteur studio. Mais dans le sens où c'était peut-être un des meilleurs acteurs à Hollywood pour accepter, je pense, cette concession-là. Et c'est très très drôle aussi, au niveau iconographique, il a, sous son masque, il a une peinture noire, enfin, il a un maquillage noir qui lui fait ressembler à, j'ai évidemment oublié son nom, mais le chanteur de The Cure. Boys Don't Cry. Bref. Bref. Et d'ailleurs, c'est ironique parce que dans le film, il y a Something in the Way de Nirvana, mais non pas de Boys Don't Cry, de The Cure. Bref, je vous retrouverai son nom parce que ma mémoire fait défaut. Et ouais, je trouve que le film est pétri de bonne qualité. Notamment au niveau de la BO, y a des plans qui sont incroyables, ça rappelle le cinéma de James Gray, je sais pas si tu l'as vu, le gars qui a fait La Nuit nous appartient. Ça te dit quelque chose avec Joaquin Phoenix
Le titre me dit quelque chose, mais ouais. je l'ai pas là.
Voilà, donc vraiment un mec qui a un cinéma qui est très léché, très sympa, globalement parlant. Donc voilà, le Batman un dernier truc qui m'a beaucoup intéressé, je m'arrête là-dessus, c'est les conditions de tournage. C'est pour ça que je t'invite à, si tu regardes le film, à aussi regarder un petit peu du making-of.
C'était la nuit.
Déjà, non, blague à part, c'était pendant le Covid. Ils ont eu une coupure Covid et ils ont dû se démerder à la reprise des affaires pour pouvoir finir le film. Et tu te dis, punaise quoi, une machine pareille, sachant qu'ils ont quand même déployé au niveau technique, esthétique, des trucs très intéressants. Enfin, voilà, bon, le documentaire est malheureusement très hollywoodien dans le rythme du truc, donc un peu chiant et un peu en mode papier à musique, mais t'apprends des trucs assez, assez dingos. Donc voilà, le dernier Batman, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir ou à le revoir, et on en reparlera plus tard avec Olivier une fois qu'il aura fini Dragon's Dogma 2, donc dans longtemps.
Exactement.
Je ne sais pas si tu voulais poursuivre.
Bien sûr.
Mais bien sûr, à toi.
Est-ce que tu as vu Les Enfants de la Mer ?
Nope.
C'est de Ayumu Watanabe. Celui qui a fait les films d'animation, mais de Doraemon.
Non.
Regarde-le. C'est en fait, tu suis une jeune fille, Ruka, qui subit un peu une injustice, c'est-à-dire qu'au tout début, elle est en train de faire une partie de handball, si ma mémoire est bonne.
Softball, handball.
Non, handball. Toujours est-il qu'elle a le droit à un croche-pied, pas juste parce qu'elle joue bien, bravo. Et que du coup, elle se venge en jetant la balle en pleine tête à la fille qui lui a fait le croche-pied. Elle est punie, alors que l'autre, non. Puis, elle part, elle va rejoindre son père qui travaille dans un aquarium, et en fait, elle rencontre un jeune garçon qui, a vécu, en fait, dans la mer.
D'accord.
t'apprends qu'il a un frère et tous les deux en fait ont grandi, été élevés dans la mer. Alors ils respirent
genre
pas
comme
sous
les enfants sauvages à la Mowgli, mais au lieu
c'est
d'être
ça,
dans la jungle, c'est
exactement
dans la mer. Okay.
Donc ils respirent pas sous l'eau, mais c'est un peu comme c'est des mammifères marins, quoi, un peu comme des dauphins ou des baleines. Et en fait, s'ensuit une rencontre amicale. Le fait
c'est très beau. C'est bien beau.
Ouais, le fait de découvrir la mer, ça parle beaucoup de la place de l'être humain dans l'écosystème et aussi de la place du monde marin. C'est à un moment donné, il y a une très belle métaphore d'un concept qu'on retrouve notamment, pas que, mais dans le bouddhisme, qui est le fait d'incarner l'absence d'existence séparée. Je vais expliquer. C'est super bien illustré, en fait. C'est la fameuse vacuité, en fait, qui est souvent mal comprise comme du rien, alors qu'en fait, la vacuité, c'est du tout. Mais on retrouve aussi ça dans des cultures...
Au Japon, le mou, le vide, la notion de vide dans le mou, qu'on retrouve d'ailleurs dans le traité des quatre roues de Miyamoto Musashi.
Tu vas avoir aussi en Amérique latine, en Amazonie ou des trucs comme ça, où il y a cette culture-là d'un écosystème auquel on appartient et qu'on domine pas, ou que si on le domine, on le paye, quoi. Et en fait la notion de vacuité, ça fait partie des clés du nirvana dans le bouddhisme. C'est-à-dire que le nirvana, c'est pas « youpi, tralala, on n'a que du plaisir, youhou !» Non, c'est pas ça. Le nirvana, ça nécessite, d'une part, d'accepter le fait que la souffrance fasse partie de l'existence, et que vouloir annihiler la souffrance est une absurdité, mène à une forme d'avidité, de
fantasme d'homéostasie, oui, c'est-à-dire d'état de comme ça.
Et que dans l'existence, on est amené à faire l'expérience, qui que nous soyons, peu importe notre culture, notre âge, notre milieu social, par exemple de la maladie, de la mort d'autrui, de la perte de biens, et que ça fait partie de l'existence, et c'est nécessaire à l'existence, au sens où il y a l'impermanence, tu parlais tout à l'heure de la permanence, mais là en fait c'est plutôt de dire l'impermanence fait partie de l'existence.
Je rappelle ce très joli mot que tu nous avais appris, l'équanimité, donc
oui.
la juste distance aux choses.
Et où être capable d'accueillir aussi bien l'agréable que le désagréable. Et donc l'impermanence, c'est de dire en fait tout ce qui a un début a une fin, mais la fin de toute chose est le début d'autre chose. Et que, quelque part, il y a aussi une espèce de consolation dans cette croyance de dire, oui, tout est impermanent, donc ce qui commence finit, mais grâce à la fin de ce qui a fini, débute autre chose. Et c'est là où on en arrive à la notion, donc du coup, d'absence d'existence séparée.
D'accord.
C'est-à-dire, la vacuité, c'est incarner le fait que, Si on prend l'exemple d'une fleur, cette fleur, elle est uniquement constituée d'éléments non-fleurs. C'est-à-dire que tout ce qui la compose, c'est pas des petites fleurs, c'est des cellules de fleurs. Et ces cellules de fleurs, ce qui les compose, c'est pas des petites cellules, c'est des molécules. Et ces molécules, ce qui les compose, c'est des atomes. Et ça va au-delà, c'est-à-dire que dans cette... Ça c'est pragmatique, ça c'est un état de fait, mais dans cette croyance, ça va au-delà, ça veut dire que... Oui, mais la fleur, si elle est ce qu'elle est, c'est grâce, entre autres choses, à la pluie. Donc, dans la fleur, il y a aussi le nuage. Mais il y a aussi le soleil, avec la photosynthèse. Mais si le soleil, il est ce qu'il est, c'est parce que l'univers existe. Donc, en gros, dans la fleur, il y a l'univers. Et en fait, l'absence d'existence séparée, c'est de dire que tout est interrelié. Et qu'à partir du moment où on fait partie de ce système, on est un élément du tout. Donc, incarner l'absence d'existence séparée, ça veut dire avoir conscience que le moi est une illusion. C'est une manifestation de notre psychisme qui nous fait croire qu'on est séparé du reste alors qu'on est directement interrelié au reste. Et que quand on va méditer, par exemple, on va tenter d'approcher un état dans lequel on est présent à tout ce qui est tel que c'est. C'est-à-dire qu'il y a nos pensées, nos émotions, nos sensations internes et externes, mais dans cette croyance-là, ça va plus loin. Il y a aussi l'univers en nous. Et donc, le vide, c'est le tout. C'est quand je surinvestis plus rien, que ce soit mes pensées, mes sensations ou autres, ou quand je ne refoule plus rien, je suis présent au tout, au-delà même des manifestations directes que va être, si je suis en train de méditer en plein air, le soleil, il y a aussi, du coup, tout ce qui est pas là présent, mais d'une certaine manière présent dans ce qui est. Et en fait, dans cet animé, il y a une scène en fait comme ça qui est hyper que je trouve hyper jolie, qui symbolise ça, ce tout dans l'un et l'un dans tout, c'est-à-dire le fait que le vide, c'est le tout.
Les enfants de la mer. Donc pour rappel, et ça me fait penser à deux autres œuvres, trois pour le prix de l'une. C'est un film d'animation coréen qui s'appelle Mari Yagi, qui est très joli sur la présentation. Alors, je pense que je vais pas présumer, mais vu comment tu en parles, ça doit être un petit peu moins profond que ce film-là, où il y a une vraie réflexion autour, là où dans le film Mari Yagi, il y a vraiment une logique esthétique. Donc c'est un film d'animation coréen. Oui.
La réflexion, elle est très esthétique, justement. Elle est pas... Là, moi, je fais...
Peut-être, alors.
Le récit que j'en fais, c'est pas dit comme ça. Mais je trouve que c'est une belle métaphore de cette notion-là.
D'accord.
Que moi je traduis par le bouddhisme parce que je connais mieux le bouddhisme que d'autres croyances du même ordre, mais c'est pas dit aussi explicitement que je viens de l'expliquer. Enfin, si tant est que ce que je viens d'expliquer vous a pas perdu, mais parce que c'est des concepts assez complexes, mais je pense que ça doit être du même ordre. Mais je t'ai coupé.
Non, pas de souci. Ça me permet juste de placer le deuxième film que j'avais énormément apprécié, qui est un film italien qui s'appelle Respiro. Qui justement alors c'est plus une réflexion sur le rapport de la cellule familiale, mais il y a un personnage principal avec une super actrice, et en ce moment là j'ai du mal avec les noms, donc je vais vous retrouver ça, mais grosso modo, donc c'est une mère de famille italienne qui est considérée comme un peu excentrique, pas dire folle. Elle habite dans un petit village de pêcheurs, etc. Et donc elle est très marginalisée, c'est-à-dire qu'elle fait souvent des frasques, mais pas nécessairement dans une volonté de théâtralisme, mais elle va vraiment là où son corps, ses envies lui la porte. Et ça met en fait en lumière le comportement, effectivement très très précautionneux de, on va presque plus se soucier et bâtir son comportement sur le comportement des voisins que sur sa volonté propre. Et y a toute une esthétique là, du coup, pas en animation parce que c'est un film live, autour de la, comment on appelle ça, de la mer, du coup, parce que ça se passe à la mer, et je m'en veux. Ah si, ça y est, c'est Valeria Golino, excusez-moi, j'avais oublié son nom, une fabuleuse actrice hein, d'ailleurs, bien avant le film Respiro. Voilà, c'était tout en parallèle, et c'était Robert Smith, le chanteur des Cure. J'ai cherché entre temps. Wally Walou, approcherions-nous de la fin? Oui, écoutez, je vais vous faire un autre teasing. Ah, monsieur, lève le doigt. Non, vas-y, je t'en prie.
Non. Teasing, toi, t'as dit, parce que moi, c'est reco. Si là, c'était un peu une reco aussi, mais enfin, j'ai fait que des recos, en fait, finalement.
T'as levé le doigt,
c'est bon. Sauf le décès de Toriyama, parce que ce serait bizarre d'en faire une reco. Non.
C'est nerveux.
Alors, non, vas-y, fais-le, parce que tu sais quoi, j'ai plus le nom, il faut que je le cherche.
Alors. Hop, la voix est lointaine, c'est normal, je suis allé chercher, je n'ai pas encore terminé la lecture, je vous en dirai un petit peu plus sur ce que j'aurai fini. J'ai eu une espèce de période de creux, moitié de Love m'a fait envie, ça s'appelle La Bibliomule de Cordoue. Très joli. De Cordoue, voilà, hop, je le passe au cher ami, qui va effectivement nous conter le règne et même la succession de règne dans le califat, et surtout l'enjeu à l'époque de la volonté de faire disparaître les ouvrages, ce qu'il faut savoir, hein, donc la bibliothèque de Cordoue, c'est comparable en termes de préservation d'œuvres essentielles qui ont été transmises au travers des âges à celle d'Alexandrie. Qu'est-ce que je voulais dire? Grosso modo, le vrai souci, c'est que on se retrouve à une transition entre au niveau du justement des califats, alors que je vous dise tout de suite en consultant pour ne pas dire de bêtises, donc entre le régnant donc Hicham II, donc je cite, intronisé à 11 ans, à la mort suspecte de son père, il a une santé fragile et laisse en réalité gouverner le vizir Al-Mansur, qui le tient reclus dans le palais doré de Madina al-Zahra. Et tout l'enjeu va être justement ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait de cette culture là où il y a eu une succession de à tes souhaits, de califat.
Merci.
impossible à couper au montage, autant faire de la vie un podcast. J'adore rire et éternuer. Et en gros, donc ce fameux vizir, hein, ça fait presque Jafar, tu vois, genre un peu le bad guy. Lui va vouloir revenir à une forme de radicalité religieuse, dans le sens où les ouvrages autres que ceux de la parole de Dieu, alias le Coran, dans cette partie du globe, ça n'a pas valeur de cité. Donc tu pleure des larmes de sang.
C'est pas toi qui décide.
Voilà, c'est Dieu qui décide. Voilà.
C'est Dieu qui décide.
Écoute Dieu. Et en gros, donc on va avoir trois personnages que tout opposé, parce qu'il y en a deux qui travaillaient ensemble. Une femme, une espèce de, alors j'ai plus sa fonction première, mais il fait de la traduction de la localisation d'œuvres au sein du califat, et un voleur, plus ou moins, enfin un mec, un itinérant qui revient. Un brigand qui ironiquement revient parce qu'il a été l'ami du vizir et il espère gratter en fait une position.
Un gratteur.
Et il va se retrouver à partir avec les deux autres que j'ai cités, donc cette esclave et ce, on pourrait dire, hein, c'est pas vraiment sa fonction, mais ce scribe quelque part, à recueillir un maximum d'ouvrages avant que les autres en fait soient cramés. Et à partir, donc, à tous les charger à dos d'une mule, d'où le biblio-mule de Cordoue, sur la route. Voilà, j'en suis plus ou moins à moitié, trois quarts de l'œuvre, et c'est assez chouette. J'ai juste un petit regret, c'est comme toute entreprise de ce type-là, de décrire une période historique, d'arriver à ne pas trop surcharger par moment donné, alors pas forcément de faits historiques, parce que c'est assez bien dilué dans la bande dessinée, mais simplement de trouver un bon compromis. On verra. Pour l'instant, je vous invite quand même, si le pitch vous plaît, à vous lancer dedans, parce que c'est globalement drôle. Vous avez vu la réaction spontanée d'Olivier, c'est beau.
Ah oui.
En tout cas, tout est relatif finalement au niveau du trait.
Non,
mais
je dis
rien,
c'est
qu'une...
beau.
Ouais. Ok, c'est bah, beau. Olivier l'a dit, donc c'est fort, c'est beau. Label beau. voilà, la Bibliothèque de Cordoue, c'est aux éditions d'Argo et... Tentez, j'ai envie de vous dire, rapprochez-vous comme moi de votre médiathèque, hein, vous voyez, il y a même un petit macaron adulte dessus, parce que c'était dans la partie adulte. Voilà, je crois que nous avons fait un joli tour, et tu as retrouvé ta recommandation finale qui marquera.
Et on va retomber sur nos pattes comme des chats.
Ah, incroyable.
On parlait
sans consultation
en début d'émission de Dragon Quest et de Suikoden, donc de RPG.
JRPG
japonais. Et est-ce que tu connais l'anime qui est issu d'un manga, mais j'ai plus le nom en japonais, mais en l'occurrence qui est traduit en Glouton et Dragon? Il connaît. Il a un air coquin.
Je souris.
Il a un air coquin. Toi, tu l'as fait en manga?
Anime. Netflix.
Anime. Oui. Ah, mais il va falloir qu'on. Et t'en parles pas.
C'est parfait. Allons-y.
Bon, non, parce que c'est pour nous, en fait. Ils ont fait ça pour nous.
On est d'accord.
Donc, que j'explique.
À bien des égards, hein, ils l'ont fait pour nous.
Ah oui, non, mais donc c'est assez drôle parce que ça se passe dans un univers heroic fantasy où il y a des codes d'heroic fantasy, c'est-à-dire que les gens peuvent ressusciter sous certaines conditions, où on va looter des trucs dans des donjons. Sauf que ça se passe pas dans un univers de jeux vidéo, ça se passe dans un univers où c'est normal en fait que des personnes aillent dans des donjons pour aller récupérer des trucs, les revendre, se faire du fric,
normal.
Monter leur stuff, enfin leur équipement quoi, et du coup repartir parce que bah il y a des monstres plus puissants à aller affronter comme
tout bizarre. Donjon RPG,
voilà, comme dans un RPG, sauf que c'est là où c'est formidable. Hey. Il faut quand même que j'explique un petit peu le début. C'est-à-dire que donc on suit une guilde qui se fait un peu prendre de court par un dragon rouge, et c'est important parce qu'on apprend plus tard que ce dragon est particulier, surpuissant, et en fait ils se font complètement acculer et très vite fait référence au fait que au-delà de ne pas être préparés à affronter cet ennemi, ils avaient le ventre vide, ce qui du coup les rendait moins efficaces au combat. Et en fait, avant que tout le monde meure, la sœur d'un des personnages principaux, dont j'ai oublié le nom, téléporte à l'extérieur
et les sauve.
Sauf que elle est avalée. Mais on est dans un monde d'heroic fantasy, donc du coup, il est possible qu'elle ne soit pas encore digérée, parce que ça peut mettre longtemps avant de se faire digérer par un dragon rouge dans ce monde. Et ils décident donc de repartir, sauf qu'ils ont perdu une grosse partie de leur équipement, ils n'ont plus du tout d'argent.
Et même leur équipe. Parce qu'il y a des membres de l'équipe qui sont partis,
qui démissionnent.
À la base, on a donc un chevalier dont on a oublié le prénom, qui est le frère du personnage magicien dont tu parlais. On a une elfe, qui est elle aussi magicienne. On a un voleur. Et on a une bagarreuse et un samouraï.
C'est ça.
Ouais.
Mais eux deux, les deux derniers, donc du coup, démissionnent.
Ils se mettent en condition pour Dragon's Dogma 2, là.
C'est
en fait, ils vous font une préparation de paiement.
Et du coup, ils se disent, OK, on va faire un truc. Enfin, c'est le chevalier qui avoue un de ses fantasmes, manger des monstres. Il dit, on y va, on n'a rien à manger, c'est pas grave, on mangera des monstres.
On tente.
Alors, les deux autres sont pas super chauds, mais en même temps, veulent aller sauver leur ami, qui est un personnage très, 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 très bienveillant.
Ouais.
Donc, voilà, donc ils sont vraiment motivés pour aller la récupérer. Ils disent, YOLO, on y va. Sauf que, ils savent pas préparer des monstres. Et là, ils rencontrent un nain qui est spécialiste de la préparation de monstres. Et là, c'est formidable.
C'est trop bien.
C'est-à-dire que c'est-à-dire que, du coup, on part dans un monde où il va y avoir des personnages qui vont affronter des monstres de plus en plus puissants, des monstres tiré de RPG, quoi. Alors, il va y avoir certes du zombie, mais des champignons qui marchent, des scorpions géants, des golems, enfin bref, tout un tas
de bestiaires.
Donc certains qui sont comestibles. Alors le cuistot, lui, sait en cuisiner certains et il les cuisine incroyablement. Et puis ça m'a un petit peu fait penser, sous certains aspects, avec de l'heroic fantasy en plus, à Toriko, parce que au-delà du côté
j'ai jamais lu, mais oui, je vois très bien.
Au-delà du côté on va affronter, on va affronter ce qu'on veut manger, parce que dans Toriko, c'est un shonen à la Dragon Ball, où en fait, le personnage principal, lui, va affronter des animaux, et pas que, parce qu'il y a aussi des ennemis qui veulent tuer pour tuer, enfin bref, je vais pas parler de Toriko maintenant, mais bref, et donc, qui mange...
C'est Okuto no Ken, donc Ken le survivant, mixé avec Food Wars, voilà.
Mais voilà, c'est ça, et le fait de manger les bêtes qu'il affronte lui confère à chaque fois plus de pouvoir, donc il a des power-up. Là, il y a pas vraiment le power-up, mais il y a le côté, on va affronter des trucs, et on les cuisine. Et il y a vraiment, en plus, un aspect très cuisine, quoi.
Mais complètement.
Où c'est sophistiqué, on parle de pourquoi cuire tel type d'aliment de cette
manière-là.
Parce
qu'il faut retirer le poison ou enlever un goût désagréable. Non, c'est génial.
Les différents modes de cuisson, ce qu'on cherche à obtenir avec les différents modes de cuisson. Enfin, tu l'avais découvert avant, j'ai dit, J'ai pensé directement à toi. J'ai dit, il faut absolument qu'on en parle.
C'est la seule série pour te dire que ça fait des années que j'ai pas attendu épisode après épisode.
Oui, parce que là, pour le moment, il y a que 10 épisodes.
Ouais, 8-10 épisodes, un truc comme ça.
Le 11 doit sortir bientôt, ouais. Là, à l'heure qu'il est. Ouais, non, mais c'est génial, cette série.
Ouais, je suis joyeux tous les jeudis. À l'arrivée de nouvelles et élément important aussi c'est le studio Trigger qui est un très bon studio d'animation, donc ça enlève rien. Et dernier point qui alors allez-y hein, vous avez compris hein, vous avez entendu Olivier, il a ouvert le bal, je vous recommande à 2000%. Et dernier truc pour terminer, un ami qui m'a fait la remarque, enfin pour moi c'était tellement, ça allait tellement de soi, mais c'est vrai qu'on en oublie de se dire que c'est cool dans ces cas-là. Y a pas une once de fan service dans cette série.
C'est vrai.
Il n'y a rien, il n'y a pas de plan dégueulasse, il n'y a pas de truc. Pourtant, ça peut être la foire au fantasme, hein, entre effectivement les différents personnages féminins, les trucs machin, l'elfe. Même au début, le pote à qui j'ai fait découvrir la série, il avait un peu peur, parce qu'en gros, pour vous dire très vite, la première créature qui est cuisinée, c'est un slime qui lui tombe dessus, qui l'étouffe. Et lui, dans sa tête, il m'a dit, je t'avoue que quand j'ai vu le plan, je me suis dit, j'ai peur qu'elle commence à se congestionner, qu'il y ait des plans nichons ou culottes, ou je sais pas quoi, ou un truc un peu érotisé, que dalle. Le nain, il arrive, hop, il met un coup sur le nerf du slime et...
Par contre, il faut être prêt, parce qu'il y a des scènes qui sont assez violentes, des morts assez violentes. Il y a des morts quand même, quand il raconte des histoires, ou quand toi, ça peut être soudain d'un seul coup, quelqu'un qui se fait transpercer pleine gorge par une épée.
Ah oui.
C'est pas pour les gamins, quoi. Enfin...
Non, c'est effectivement ça, pour cet amalgame-là. Oui, d'accord. Non, je pensais que tu parlais dans le... Alors, ça l'est en violence potentiellement graphique et psychologique pour certains, mais je pensais que tu parlais vraiment, tu vois, dans un truc, un cadre très très glauque et machin. Mais comme il y a une forme globale de légèreté,
ouais,
avec
mais c'est
l'idée de résurrection potentielle,
oui, c'est vrai, mais c'est quand même, je trouve, violent dans le sens très soudain.
T'as raison,
ça arrive.
Oui. La team avec les trésors là.
Ouais, par exemple. Ouais. Et encore, celle-ci, ça va, parce que... Enfin, ça va. on voit pas comment il meurt.
Ouais.
Mais je parle à un moment donné, il y en a un qui se fait transpercer la gorge de part en part par une épée, quand même. Enfin, et d'un coup, en fait. Et ça vient d'un coup.
Je t'avoue que je me souviens même plus. Hein. J'ai dû refouler le truc. Je me souviens plus de cette séquence-là. Mais très bien. Basez-vous sur Olivier. Soyez prêts. Après, c'est pas du gore berserkien ou
y a,
un truc.
Il y a aussi des moments très drôles,
oui,
où je ne spoilerai pas, mais non, le non, coup non. Là, du trésor. Là, quand, bon, parce que c'est pas comissime. Non, c'est pas ça. Et qu'il jette le truc. J'en dirai pas plus,
ouais.
Mais c'était très drôle.
Non, et puis c'est improbable aussi, parce qu'il y a des trucs au début, vous voyez, en fonction des monstres et tout, vous devinez les gens de trucs qu'ils vont cuisiner. Il y en a qui sont un petit peu plus capillotractés,
oui,
mais ça reste toujours...
Les glaces, par
exemple. Voilà. Mais c'est très chouette, vraiment super série feel good, et moi je suis, comme je disais, comme Jinja.
Mais et je trouve que, bon, même si les Français, on n'est pas mauvais dans le genre, mais tu sens que c'est aussi japonais, ça bouge, ça se bouffe. C'est un peu... C'est visqueux, tout ça. T'inquiète, il y a un moyen de le cuisiner pour que ça passe.
Ouais, et c'est là où l'intelligence de la série est que on a les codes effectivement de l'exploration du roman d'aventure, et on a sur le même niveau, et ça se rééquilibre sans cesse, comme tu l'as très bien dit au début, le défi de voilà, qu'est-ce qu'on va nous cuisiner, est-ce que ça va être une pure cuisine dans l'idée de la beauté du geste de ce, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le personnage du nain comme ce héros chevalier du début, ils ont ça en commun, c'est pour ça qu'ils se rapprochent très vite, cette curiosité en fait de...
Et oui, je l'ai pas précisé.
Ouais, bah vas-y, je t'en prie.
Bah c'est là-dedans que je me retrouve, toi aussi, c'est moi aussi ce que j'aime, c'est découvrir des trucs. C'est j'en parlais dans une émission précédente, écoutez les émissions précédentes.
S'il vous plaît.
Et où en fait, c'est aussi ça pour moi, mon côté épicurien, et non pas hédoniste, écoutez les émissions précédentes. Et où en fait, il y a ce côté aussi de découverte, d'avoir la curiosité, quitte à des fois être un peu déçu, mais au moins avoir fait une découverte.
C'est ça. Et là, voilà, il y a un très bon équilibrage entre est-ce que c'est un truc qui va genre juste nous régénérer de la vie ou est-ce que dans la foulée du truc, tu vas pas aussi prendre du plaisir est-ce que finalement l'un n'empêche pas l'autre? Voilà, c'est vraiment très très chouette et je te remercie, même si j'en aurais parlé à un moment donné, mais je te remercie d'avoir évoqué. Bah, parfait. Conclusion magnifique. Ça met en appétit. Mon cher ami, mon
on va
cher
manger.
Olivier, allez, une petite bouffe. À défaut, en tout cas, d'aller manger peut-être.
Namasté.
Namasté à toi. Namasté à vous. Merci, comme d'habitude, de continuer de nous écouter, de nous suivre, de nous faire des retours sur le Discord. Ça fait chaud au cœur. On a de plus en plus de retours de gens. Certains qui ont vraiment, on va dire, binge écouté les émissions. Donc, merci. Nous, ça nous donne un ordre d'idée de savoir s'il y a une baisse de rythme, etc. S'il y a des choses à réajuster. Bon, on a notre petite routine.
Cliquez.
Cliquez, voilà. Partagez, blague à part. Hein, c'est vrai.
Oui.
C'est le meilleur moyen, nous on fait pas de com, je le ferai peut-être à terme.
Criez à vos fenêtres.
C'est ça, de sortez dans la rue et dites home, c'est cool, allez-y, c'est partout, Spotify, sur les plateformes Apple Podcast et compagnie. Voilà, vous savez où nous retrouver, les réseaux M le Mehdi, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Twitch pour les lives, et puis voilà, on se retrouve bientôt, prenez soin de vous, et n'en remettez pas à plus tard le fait de revoir les gens que vous appréciez. Ciao, ciao.
Ciao.